Donc à 2 jours de la fête de Noël, eh bien, nous sommes invités à nous tourner de nouveau vers la Vierge Marie. Mais vous avez remarqué, c'est la Vierge Marie juste enceinte. L'Annonciation vient juste d'être faite. Nous retournons 9 mois en arrière. L'Annonciation à la Vierge Marie vient d'être faite. Et aussitôt, Marie se lève et va chez sa cousine Élisabeth, puisque vous vous souvenez que l'archange Gabriel a annoncé aussi à Marie que sa cousine Élisabeth était enceinte, elle qui était stérile et âgée, et qu'elle en était à son 6e mois. Donc Marie va la rejoindre pour l'aider. Elle y restera 3 mois, nous dit l'Évangile, un peu plus loin. Toujours est-il que je m'intéresserai surtout à ce petit passage, cet empressement de la Vierge Marie pour partir voir sa cousine Élisabeth et l'aider. Hein, le passage suivant mériterait aussi d'être commenté pour nous encourager, parce que nous voyons Élisabeth, Jean-Baptiste tressaillir et Marie. Il n'est pas précisé que l'enfant Jésus tressaillit en elle, il est tout petit, hein, et c'est vraiment quelques cellules. Donc il n'est pas précisé qu'il tressaillit en elle, mais et Marie et Jésus sont tellement en communion d'emblée qu'il n'est pas nécessaire, il n'y a pas de décalage entre le tressaillement de l'enfant en elle et l'exaltation, la joie de Marie, hein, qui va, juste après l'Évangile que nous venons d'entendre, en fait, Marie va chanter le Magnificat, cette hymne, cette belle hymne de joie et de louange à Dieu Sauveur. Toujours est-il que Marie, donc une dernière chose aussi sur la réaction d'Élisabeth, hein, qui va chanter un chant d'action de grâce pour Marie, une petite action de grâce pour Marie. Il faut voir que les termes qui sont utilisés sont des termes très rares, je vous le dis en passant, hein, en grec, et sont des termes très rares et qui sont utilisés normalement, enfin ils sont utilisés une fois dans la Bible pour une acclamation liturgique. Et on voit déjà qu'on entre vraiment dans un culte divin, hein, on n'est pas simplement dans la relation d'amitié sympathique, ça dépasse complètement les simples relations, et c'est ce que le Seigneur veut pour nous aussi dans nos relations quotidiennes, c'est qu'on ne se contente pas d'un petit confort et des relations courtoises mais bien mondaines au final, mais que nous chrétiens nous dépassions tout cela, et c'est vraiment ce que le Seigneur nous invite à vivre. Toujours est-il que justement Marie, en accueillant l'archange Gabriel, en accueillant l'enfant Dieu en son sein, eh bien, que va-t-il se produire? Alors que Marie, cette jeune fille bien jeune, je ne sais pas trop quel âge, mais 15 ans, disons 15-16 ans, aurait pu s'inquiéter, être particulièrement troublée et se centrer sur elle, étant donné que c'était compliqué, elle avait un fiancé à lequel elle était promise, elle était jeune et son avenir était un peu compliqué. Eh bien, elle aurait pu être centrée sur elle. Peut-être aussi avait-elle des nausées, je ne sais pas, en tant que jeune femme enceinte. Toujours est-il qu'au lieu de se centrer sur elle-même, nous dit l'Évangile, aussitôt, avec empressement, Marie se détourne d'elle, part voir sa cousine Élisabeth. Il faut savoir qu'il faut, c'est à peu près 150 kilomètres, et ce n'est pas en voiture. Et nous voyons donc Marie pris d'un désir, enfin, emporté par l'action de Dieu, eh bien, elle part servir, aider sa cousine. Ceci nous enseigne beaucoup sur l'action de Dieu dans nos vies, l'action de Dieu quand le Seigneur entre dans la vie des hommes. Et donc, nous pouvons nous rappeler dans la vie de certains saints, comment justement le Seigneur fera exactement la même chose. Et c'est finalement ce qui caractérise la vraie vie en Dieu, c'est que ça nous détourne de nous, alors qu'on a plein de bonnes raisons pour être tourné sur nous. Et ça nous tourne vers l'action de charité, l'œuvre de charité, non pas les grandes œuvres, hein, les petites œuvres toutes simples, ça nous tourne vers les autres, ça nous tourne pour le bien des autres. C'est ce que Marie va faire. Et finalement, à 2 jours de Noël, c'est vraiment le secret de la réussite de la fête de Noël. Elle n'est pas tant dans ce qu'on va attendre et recevoir personnellement. Les cadeaux, les amitiés, les conversations, voilà. Comme si on devait tout attendre des autres. Mais c'est exactement dans la démarche inverse. Si nous voulons réussir les fêtes, entrons dans le mouvement de Marie. Dans ce mouvement où on se détourne de nous-mêmes pour faire plaisir. Et évidemment, quand j'ai préparé cette homélie, m'est venu ce que je vous ai sans doute dit bien des fois, cette expérience de la petite Thérèse de Lisieux au soir de Noël, à Noël donc, au soir de Noël 1886, un soir de Noël très particulier en 1886, puisqu'on a eu plusieurs conversions ce soir-là. Hein. Et donc Thérèse vit une conversion, elle a 13 ans, elle vit une conversion, et elle dit ceci: « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. » Et dès lors je fus heureuse. On cherche le bonheur. L'évangile de Luc est marqué par cette joie ambiante. Tout ce récit de l'Annonciation, de la Visitation, du Magnificat, c'est marqué par la joie. On cherche la joie se trouve là. Dans ce que Thérèse va nous résumer comme cela. « Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. » Voilà le secret du bonheur. Mais c'est vrai que nos réflexes sont habituellement inverses, parce que nous sommes abîmés par le péché, blessés par le péché, hein, même nos blessures psychologiques, nos besoins d'être aimés sont liés à au péché ambiant, hein, au péché qui nous habite, au péché originel, et puis aussi au péché que nous avons nous-mêmes commis. Toujours est-il que nous sommes des êtres blessés et nous cherchons à capter l'amitié, à être consolés continuellement. Et la grande consolation de notre vie, c'est d'accueillir la charité de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, pour justement nous convertir dans un désir de faire plaisir, de s'oublier pour faire plaisir. La petite Thérèse, dans son manuscrit C, je vous invite à les lire, hein, dans son manuscrit C, elle fait plusieurs pages sur la charité, sur ce qu'est la charité, sur sa découverte en ce qui concerne la charité. Elle dit ceci, je prends quelques citations brèves parce que on peut pas tout lire. Première étape, elle dit, il faut déjà donner à quiconque demande, ne rien refuser. Elle dit à un autre endroit, elle dit, parfois c'est vrai qu'on est obligé de refuser quand même parce qu'on peut pas tout faire au même moment. Elle dit, il y a une manière de dire non qui fait aussi plaisir que si on avait dit oui. Donc ça, faut l'apprendre. Bon. Demander à quiconque demande. Mieux, dit-elle un peu plus loin, il faut laisser prendre ce qui nous appartient sans le redemander. Donc ça va un peu plus loin. Elle part d'ailleurs de la citation de Jésus qui dit « Celui qui te demande, tu lui donnes un peu plus, etc. Hein, » vous connaissez ce passage où Jésus nous invite à donner généreusement. Hein, puis, alors souvent, dans les homélies, on essaie de « Ah oui, mais attention, il faut bien comprendre, pas trop quand même, attention quand même. » Toujours, c'est normal, hein, on essaie de se rassurer, mais enfin, il faut mieux écouter les saints. Et en plus, Thérèse, elle est docteur de l'Église, donc je préfère me fier à elle dans son interprétation. Toujours est-il qu'elle dit « Il faut se laisser prendre ce qui nous appartient sans le redemander. » Et même un peu plus loin, elle dit, et même c'est mieux, ce qui est mieux, c'est qu'il faut aller au-devant des désirs pour donner sans avoir l'air de regretter, mais au contraire, paraître heureuse de s'en être débarrassée. Donc elle parle d'objets, mais c'est aussi pareil pour des actions qu'on n'a pas envie de faire, qu'on va faire. Il faut faire ces actions avec joie. C'est ce que Marie fera, sans doute chez Élisabeth, etc. Et puis un peu plus loin, elle dit « Et je tâche d'avoir l'air contente de le faire ou de donner. Et je tâche d'avoir l'air contente et surtout de l'être. » Avoir l'air contente, donc c'est déjà bien. Hein, si on peut déjà apporter le sourire plutôt que bien montrer qu'on fait contre-cœur. Et surtout de l'être. Donc de faire rentrer cette joie dans le cœur. Car, dit-elle plus loin, lorsque la charité a jeté de profondes racines dans l'âme, elle se montre à l'extérieur. Puis elle réfléchit que les enseignements de Jésus sont contraires aux sentiments de la nature. Sans le recours de sa grâce, il serait impossible non seulement de les mettre en pratique, mais de les comprendre. Je ne sais pas si on les comprend, je ne sais pas si on les met en pratique. En tout cas, sans la grâce, ce n'est pas possible. les plus belles pensées spirituelles ne sont rien sans les œuvres. Elle dit aussi, par rapport à la question des méditations, des choses qui enflamment un peu notre cœur par rapport à la foi, elle dit, ben, c'est bien beau tout ça, mais s'il n'y a pas d'œuvre, ça ne sert à rien. Si cette âme se complaît dans ses belles pensées et fait la prière du pharisien, elle devient semblable à une personne mourant de faim devant une table bien garnie. En fait, si on reste à la moitié du chemin, on passe à côté de tout. Voilà, toujours est-il que Marie, par son exemple, avec ce tout petit bébé, cet embryon en elle, tout petit, se rend dans une dynamique de service. Elle se détourne d'elle-même pour servir. Et elle, dans la joie ambiante que nous décrit Luc, Thérèse de Lisieux illustre cela aussi par sa propre expérience. Hein, je sentis la charité entrer dans mon cœur, le désir de m'oublier pour faire plaisir, et dès lors je fus heureuse. Et puis, cette charité doit aller loin, avec l'aide de Dieu, doit aller loin, jusqu'à tout donner, sans rien redemander. Amen. Demandons cela pour la grâce de Noël, pour que nous vivions de belles fêtes de Noël. Amen.